Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Antoine Martin, Stéphane Genèse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres de ce dimanche.
De faire un effort, c'est en substance l'appel d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la réforme des retraites. Et la bamboche, c'est fini. Danser dans un bar jusqu'à 5h du matin à Dijon est bientôt interdit.
Le dernier huitième de finale des Bleus a été une immense déception. Il faut transformer l'échec face aux Suisses à l'Euro en rédemption.
La matinale week-end.
Emmanuel Macron compte bien reprendre la main après un entretien chez nos confrères de TF1 hier midi. C'est dans les colonnes du Parisien qu'il s'exprime ce matin.
Quatre pages, immigration, retraite, énergie, guerre en Ukraine, crise économique. Le président passe en revue bon nombre de sujets et il entend bien se mettre en première ligne sur chaque dossier qui fait l'actualité, Cyprien Pézeril.
Après de nombreux déplacements à l'étranger qui l'ont tenu éloigné de la France, Emmanuel Macron veut occuper le terrain, défendre son action et celle de son gouvernement avec deux interviews consécutives près de 8 mois après sa réélection sur les sujets brûlants, le risque de coupure d'électricité, pas de panique, on va passer l'hiver, dit-il, appelant chacun à consommer moins. Puis il enchaîne la réforme des retraites présentée dans moins de 15 jours avec un report de l'âge légal à 65 ans. Personne ne se réjouit de travailler un peu plus, mais il faudra faire un effort, prévient-il, insistant sur la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Le chef de l'État, qui poursuit sa revue des sujets du moment, réintégrer les soignants non vaccinés, en substance, n'est pas raisonnable à l'heure du retour du Covid. L'immigration débattue à l'Assemblée après-demain, c'est dans l'ADN de la France, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, dit-il encore. Enfin, il cible Marine Le Pen sur la guerre en Ukraine, c'est l'ami de la Russie. Avant d'appuyer, depuis le début, elle a un discours de capitulation.
Et Cyprien Pézeril nous le disait à l'instant, hein, Emmanuel Macron persiste et signe sur la réforme des retraites et du report de l'âge légal à 65 ans. Et cela, alors que les discussions continuent entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Une intersyndicale se réunit d'ailleurs demain pour organiser une réponse, voire une riposte à ce projet de réforme des retraites. Gérard Mardinet est le secrétaire général de la CFE-CGC.
Cette concertation n'est pas sincère, vu qu'on n'a pas fini de traiter le point de l'équilibre des régimes, qu'on a déjà des déclarations qui sont faites publiquement sur des bases fausses, parce que les chiffres qui sont donnés sont basés sur des hypothèses tout à fait contestables. On est dans un contexte où le gouvernement n'écoute personne, avec des éléments de langage présentés comme étant de bon sens. C'est totalement intolérable et je pense que l'intersyndicale en prendra acte et décidera d'actions assez fortes.
Un mot de l'actualité internationale à présent, puisque c'est une opération pour le moins impressionnante qui se tient en ce moment au Salvador. Une ville de ce pays d'Amérique centrale est littéralement encerclé par 10 000 policiers et gendarmes. Chaque maison de la commune de Soyapango est fouillée. Objectif pour les autorités, démanteler les gangs qui gangrènent le quotidien des 240 000 habitants. Allez, retour en France, puisque c'est bientôt le dernier jour du disco à Dijon. Et comme le titre de Juliette Armanet, et oui, hein, profitez-en pour danser dans les bars de nuit du centre de la cité bourguignonne, ouverts jusqu'à 5h, puisque la mairie va en limiter les horaires, raison invoquée, la multiplication des faits de délinquance dans le centre-ville. Nathalie Quenders est adjointe au maire de Dijon.
C'est pas nous le problème. Les délinquants, ce ne sont pas nos clients, hein, c'est l'inverse. C'est comme si demain on disait « on en a assez de ces accidents graves sur l'autoroute, on va fermer l'autoroute ». C'est une décision qui va représenter en gros 80% de perte de notre chiffre d'affaires. Nous, le samedi, on est 17 personnes et je vais en garder 5. Je suis dépité parce que voilà des années que l'on réclame la présence de forces de police sur la place et qu'on n'est pas entendu.
Alors, ce n'était pas du tout l'adjointe au maire du Dijon, mais Gérard Gaudin, le propriétaire du Smart, c'est un bar dansant au centre de ville de Dijon. Voilà. Il fustige cette décision de la mairie de Dijon d'interdire l'ouverture des bars de nuit jusqu'à 5h du matin. Et puis à 8h04, ce chiffre, 78 millions d'euros. 78 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon des retrouvailles. Et c'est 4 millions de plus que l'année dernière. Les Français ont été généreux cette année. D'ailleurs, vous pouvez encore donner un seul numéro, le 3637, et une seule adresse mail, le Téléthon.fr.
Merci beaucoup Stéphane Genest. Les sports à 8h04.
Le journal de la Coupe du Monde.
Antoine Martin, attention aux fantômes pour l'équipe de France.
Et oui, celui de l'échec cuisant des champions du monde à l'Euro il y a un peu plus d'un an, eux qui menaient 3-1 avant de se faire rattraper, éliminés au tir au but. Un mauvais souvenir évoqué ces dernières heures par les Français, Nicolas Pelletier.
Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus, se remémore cette élimination surprise face à la Suisse.
Je pense qu'on était un peu trop relâchés contre la Suisse. 3-1, on a cru que c'était plié.
Il ne faut d'ailleurs pas évoquer ce traumatisme avec le sélectionneur Didier Deschamps.
Parler du passé, en plus d'un passé aussi positif que celui-là, je vois pas l'intérêt.
Hugo Lloris est moins catégorique à ce sujet. Le capitaine des Bleus veut se servir de ce mauvais souvenir pour éviter de tomber dans la suffisance face aux Polonais.
Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi l'Euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. C'est sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher. Et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour cette équipe de France. Mais le spectre de l'échec suisse pourrait rapidement revenir dans toutes les têtes si les Polonais poussent les Bleus au tir au but ce soir.
Et l'équipe de France qui n'est pas en réussite dans cet exercice. France-Suisse à l'Euro 2021, la finale de la Coupe du Monde en 2006, la demi-finale face aux Tchèques à l'Euro 96 et la fameuse demi-finale 82, la Coupe du Monde face aux Allemands à Séville. Et qu'en pensent justement ces supporters français bleu-blanc-rouge avant ce huitième de finale face aux Polonais? Sont-ils confiants avant ce match déséquilibré sur le papier? Martin Bourdin leur a posé la question pour RMC.
C'est une marque qui est profonde, ça nous fait mal encore. Après voilà, erreur professionnelle, je pense qu'on apprend nos erreurs, donc pas le droit de faire la même quoi, c'est bon quoi.
Faut que ça nous serve de leçon. Je pense que la victoire en Coupe du Monde de 2018, c'était une leçon de la finale de l'Euro 2016. Il faut que là, la défaite contre la Suisse, eh ben, elle serve de leçon pour cette Coupe du Monde et elle nous serve à ne pas lâcher à 20 minutes de la fin quand on a deux buts d'avance.
Faut pas qu'on se voit déjà en quart.
Confiant, mais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera derrière les Bleus, on va les supporter, on sera là.
Dans le studio, on est confiant tout de même, soyez avec nous dès 15h. Évidemment, l'avant-match à suivre sur RMC, Jean-Louis Tour, Jérôme Roten, l'intégrale Coupe du Monde, pour vous emmener doucement jusqu'au coup d'envoi à 16h avec Jeannot Rességuier au commentaire, le dispositif exceptionnel RMC, radio officielle du Mondial. On vous le rappelle, l'autre affiche du jour, ce sera Angleterre-Sénégal à 20h, possiblement l'adversaire des Bleus en quart s'il y a victoire face aux Polonais. Hier, l'Argentine s'est qualifiée pour l'écart en battant l'Australie 2-1. Elle retrouvera les Pays-Bas, tombeurs des Américains, 3-1.
Et puis une inquiétude qui résonne jusque dans les rues de Doha, inquiétude pour le roi Pelé, la santé de la légende brésilienne qui se détériore un peu plus.
Des informations très inquiétantes nous parvenant du Brésil, la légende du foot brésilien, 82 ans, son corps ne répondrait plus à sa chimiothérapie. Le Brésil qui retient son souffle, il serait admis en soins palliatifs, information relayée par les médias brésiliens. On parle évidemment du plus grand athlète de l'histoire du pays, le meilleur footballeur de tous les temps, seul, unique, vainqueur de 3 Coupes du Monde. À Doha, Martin Bourdin a rencontré des supporters de la Seleção.
Sur le maillot jaune du Brésil, tout neuf, de Vitor, au-dessus du numéro 10, c'est le nom de Pelé qui est floqué. Alors forcément,
c'est difficile de se concentrer sur la compétition avec cette situation.
Régulièrement, lui, comme d'autres, sortent leur téléphone de leur poche pour scruter les réseaux sociaux, tenter d'avoir des nouvelles.
Je ne suis pas sûr qu'on sache tout de son état de santé réel. Tout le pays prie pour lui.
Des prières et des mots pas toujours faciles à trouver.
C'est vraiment difficile à voir. On l'adore.
Alors quand Bruno parle de l'état de santé de son idole, il a les larmes aux yeux.
Quand j'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai vu qu'il allait en soins palliatifs, j'étais vraiment triste. J'ai beaucoup pleuré. On verra ce qui se passe. C'est dans les mains de Dieu maintenant.
Hier soir, des hommages ont été rendus à Pelé à Doha via un spectacle de drones ou des portraits affichés sur les tours de la ville. Ça a beaucoup touché Marcelo.
C'est génial de voir que tout le monde, pas juste nous les Brésiliens, mais que tous les amoureux de sport lui souhaitent le meilleur.
Pour tous, l'état de santé de Pelé est une raison de plus pour pousser très fort derrière la Seleção, ne serait-ce qu'en hommage à leur légende, souffle certains.
Et plus tard dans la soirée, un message d'espoir sur le compte Instagram du roi, certainement publié par son équipe de communication. Je veux que tout le monde reste calme et positif, je me sens fort, plein d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude.
Merci beaucoup Antoine Martin, la Coupe du Monde, tout ce qu'il faut savoir du 8e, on va y revenir dans 2 minutes à peine avec Manu Amoros et Jean Rességuier. Mais d'abord, Peggy,
c'est l'heure de jouer.
Allez, on joue. On joue pour un Power Blender 5 Connect de Magimix.
Eh oui, avec... Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui. Bah,
ça permet de faire plein de choses, Mathieu. Des cocktails, des smoothies, des sorbets, des soupes. Il y a même 85 recettes qui vous seront fournies avec. Vous mettez tout dedans, vous appuyez sur un bouton et voilà, ça marche tout seul. C'est le Power Blender 5 Connect de Magimix. Et pour pouvoir le gagner, il faut dès maintenant nous appeler 3216, la touche 4, ou alors vous envoyez par SMS le mot matin au 73216. Matin, par SMS au 73216.
Allez, bonne chance à tous.
À suivre dans la matinale week-end.
Les dernières infos, compo, l'ambiance sur place.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h11, vous êtes sur RMC. C'est le premier vrai grand soir pour l'équipe de France au Qatar. 8e de finale à 16h face à la Pologne. Et c'est vous qu'on retrouvera aux commentaires. Jean Rességuier, bonjour Jeannot.
Bonjour Mathieu.
En direct de Doha et dans ce studio ici à Paris, Manuel Amoros, bonjour.
Bonjour,
merci
bonjour
d'être là.
Mathieu, j'ai une petite question. Oui. Ils vous ont mis la clim dans le studio pour que vous perdiez la voix. C'est au Qatar qu'on perd la voix.
Bah, exactement, c'est que vous arrivez à garder la vôtre, Jean. Non, mais moi, j'y arrive pas. C'est comme ça. Les virus de l'hiver ont eu ma peau. Oula, mais ça va aller, ça va aller. Et on m'a conseillé du rhum. Pour soigner le rhume,
oui,
il paraît.
Pas fou, c'est pas fou.
Avec modération, bien sûr. Ouais. Bon, Jean, les dernières infos, là, ça donne quoi chez nos Bleus? L'état d'esprit à quelques heures du coup de sifflet, la compo, dites-nous.
Ah, ils sont plutôt dans un bel état d'esprit parce que, pour ceux qui ont l'habitude de les suivre au quotidien, je pense à Loïc Braillet. Fabrice Hawkins et Arthur Perrault notamment, ils se rendent compte que il y a vraiment une belle ambiance. Dès qu'ils peuvent, ils sourient. Dès qu'ils peuvent, ils s'amusent. Dès qu'ils peuvent, ils se chambrent. Donc ça, c'est plutôt positif pour en faire un peu le parallèle de il y a 4 ans en Russie où on était plutôt bien. Alors on sait qu'il y a eu cette série de forfaits qui a peut-être un petit peu plombé à un moment donné l'ambiance. Mais là, on est dans un tout autre tournoi, comme dirait Didier Deschamps. On est sur une élimination directe et donc ça gagne. Où ça rentre à la maison. On a déjà testé ça en 2020 contre la Suisse et ça a plutôt bien fonctionné en 2018. Au niveau de la compo, il n'y a pas de surprise à attendre.
On revient aux fondamentaux.
Deschamps. Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le parc contre le Danemark avec Lloris qui va rejoindre Lyon Ram et sa 142e sélection pour le recordman des sélections de l'équipe de France. Upamecano avec Varane. Koundé fermé à droite, Théo Hernandez de retour à gauche, milieu de terrain Rabiot, Tchouaméni et Griezmann dans ce rôle un petit particulier de récupérateur relayeur et puis Mbappé, Giroud et Dembélé, tout ceci pour essayer de déséquilibrer cette équipe polonaise qui va prendre très peu de risques et qui va être surtout très défensive.
Alors regardons Manuel Amoros un peu cette équipe polonaise. Il y a 2 ou 3 joueurs à surveiller, le gardien évidemment,
gardien,
l'attaquant
à côté, c'est tout.
Oui, Lewandowski, l'attaquant, ouais. Et puis peut-être Milik aussi.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette équipe polonaise. Elle n'a pas montré beaucoup de qualités offensives pendant les poules. Donc à partir de là, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir simplement et justement un excès de confiance par rapport à l'équipe de Pologne. C'est tout. Mais je crois que c'est bien qu'ils aient rigolé, qu'ils se sont bien amusés la veille. Après, voilà, ce matin, concentration, prêt pour ce match-là. On a les moyens vraiment de pouvoir passer contre la Pologne, parce que la Pologne nous a pas montré grand-chose. Donc, c'est un bloc bas. Didier Deschamps l'a sûrement vu, a dû mettre en place peut-être à l'entraînement un schéma pour pouvoir contourner cette défense. On a des arguments, la rapidité d'Mbappé, la rapidité de Dembélé, aller provoquer sans cesse les défenseurs. Voilà, on a beaucoup de choses à faire valoir pour ce match-là.
Mais attention, pas d'excès de confiance. Mmh. C'est aussi ce qu'a dit et répété Hugo Lloris, on l'écoute.
On en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi l'Euro et c'est un élément qui peut rentrer en compte. On peut pas se relâcher, on peut pas sortir du match, on peut pas être déconcentré. Si on commence à se relâcher à un moment du match, on peut laisser l'adversaire prendre le dessus, revenir dans le match. Il faut rien lâcher, quel que soit le scénario du match. Ne pas laisser espérer l'adversaire, faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
Oui, parce que c'est ce qui avait pêché Jeannot Rességuier, on s'en souvient, lors de l'Euro face aux Suisses.
Oui, alors après, il faut que cette équipe de France retrouve, on va dire, le schéma chirurgical de 2018, c'est-à-dire ne pas s'affoler quand ça ne marche pas, quand c'est compliqué, parce que ça va être compliqué défensivement. Ils vont tout verrouiller. On va être prudent aussi sur des ballons de contre avec Milik et Lewandowski, si, et ça semble se confirmer, les deux sont alignés ensemble, mais surtout être patient, ne pas s'énerver. Manu Amoros en parlera mieux que moi de cela, parce que oui, on a les arguments avec Mbappé, on a les arguments avec Dembélé, même en jouant en appui avec Giroud. Il faut arriver à bouger cette défense et utiliser ses points faibles. Les points faibles, c'est l'axe. Donc ça veut dire aussi que face à la Pologne, l'équipe de France va devoir tout simplement trouver les bonnes solutions au bon moment dans la partie. On sait qu'il peut y avoir prolongation, on sait même qu'il peut y avoir séance de tir au but. Je dis pas qu'il faut aller jusque là,
mais
il faut surtout pas essayer d'aller très vite.
C'est là où
Jeannot, je crois qu'il faut pas Oui, je crois qu'il faut pas se précipiter. Il faut essayer de faire tourner le ballon, être collectif avant tout, parce que les espaces, ils vont venir au fur et à mesure que on va pouvoir faire circuler ce ballon. Si tout le monde est en mouvement, si tout le monde donne des solutions au porteur du ballon, je pense que ça va aller dans le bon sens, parce que on a vu hier l'Argentine qui a eu un room d'observation par rapport à l'Australie, et elle a bien joué en gardant le ballon, en faisant circuler. Et c'est ça qui peut être important aussi dans ce match-là.
Patrick nous rejoint au 32-16, messieurs. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous.
Bonjour Patrick.
On a les moyens de battre la Pologne, c'est ce que vous nous dites, à condition de marquer rapidement.
Bah voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Manu et Jeannot d'ailleurs, que j'écoutais, qui disaient qu'il faut prendre son temps. Non, moi je pense qu'il faut rentrer dans le match fort tout de suite. Je pense que le plan de jeu des Polonais, ça va être de défendre, voire de nous emmener au tir au but, ou alors espérer un hypothétique contre et aller marquer, puis nous faire douter. Je pense que plus vite l'équipe de France marquera, plus vite le plan de jeu polonais, il sera mis à zéro, et il va falloir qu'ils changent leur système, et obligatoirement aller chercher l'égalisation, ce qui, avec les joueurs qu'on a devant, va donner des espaces, et probablement ouvrir l'équipe de Pologne. Donc moi, je suis très confiant.
Oui, j'entends ça. Concrètement, vous voyez ça comment, votre prono ?
Mon prono, moi, c'est 3-1.
3-1. Ah, bah tiens, comme Emmanuel Macron, vous avez vu ça, Manuel, Jean ?
Non, j'ai pas vu, non.
3-1, il dit Lewandowski va en mettre un, Mbappé, Giroud et Joker pour le troisième but des Français.
3-0. Bien, non,
mais c'est un vrai passionné de foot et puis connaisseur, donc mais on peut lui faire confiance, et à la limite à 3-1, moi je le suis, je suis également le supporter qui est avec nous.
Même à 0, j'en signe, hein.
Oui, oui, non, mais je disais tout à l'heure, ne pas être impatient, c'est pas la même chose. Parce que quand on est impatient, on perd un petit peu ses moyens. Après, quand l'équipe de France marque, elle marque vite, mais moi, j'aime bien quand l'équipe de France marque et confirme derrière en mettant un deuxième but, parce que quand on marque, on réveille l'adversaire. Et juste pour finir, sur le côté, justement, stratégie de la rencontre, ne perdons pas de vue que l'équipe de France, ces derniers temps, à chaque fois, encaisse minimum un but.
Manuel.
Oui, mais il faut pas se précipiter, moi, dans ce match. Plus on va aller vite, plus on va s'énerver, parce qu'on va buter sur une défense bien regroupée, et plus on va faire des erreurs, et ces erreurs pourront peut-être coûter cher. Donc
sérénité.
Moi, comment ?
Sérénité.
Oui, la sérénité pour faire circuler le ballon et faire recourir l'adversaire, c'est ça le plus important.
Projetons-nous juste prudence, un tout petit peu.
Prudence avec Lewandowski, prudence avec Milik. Il y a des arguments offensifs aussi dans cette équipe de Pologne. On sait que Varane n'est pas encore totalement à 100%, et là aussi au niveau défensif, il faudra que l'équipe de France soit très très vigilante.
Varane et les deux latéraux, ça serait aussi ce qu'il faudra surveiller si ça passe pour l'écart, parce que très probablement on sera face aux Anglais, et là
et peut-être les Sénégalais, hein.
Oui,
pour les Sénégalais,
très probablement, effectivement, j'aurais essayé. Non mais ne nous emballons pas, vous avez raison, mais en tout cas si c'est contre les Anglais, très offensif, et c'est là où nos latéraux et le cas de Varane vont poser question, messieurs.
Oui, alors moi je pense que Varane, plus il va jouer, mieux ce sera, parce qu'il va gagner en temps de jeu, et donc ce qu'il va gagner en temps de jeu, il va le gagner notamment au niveau du rythme, et ça c'est important. N'oublions pas que son dernier match était le 22 octobre dernier avec Manchester United, et que donc là petit à petit il revient. Théo Hernandez sur le côté gauche, Koundé sur le côté droit. À gauche, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. À droite, Koundé a pris le devant par rapport à Pavard. Donc ça veut dire aujourd'hui que pour Didier Deschamps, cette ligne de 4, elle a très peu de chances de bouger si ça va au bout, quoi.
Elle ne bougera pas.
Patrick.
Il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessés, surtout des deux latéraux, simplement, c'est tout. Hein. Mais il y a aussi le fait que, comme ils ont Mbappé et Dembélé de chaque côté, il faut quand même qu'ils restent bien en soutien et pas essayer de passer toujours devant pour bloquer Mbappé ou Dembélé.
Merci beaucoup, Manuel Amoros. Merci, Jeannot Rességuier. Merci,
avec
Patrick,
plaisir,
de nous avoir contacté au 32-16. Jeannot, on vous retrouve évidemment tout à l'heure, coup d'envoi à 16h. Et l'avant-match avec Jean-Louis Tour et toute la bande à partir de 15h sur la radio.
Et ne perdons pas de vue le petit côté plus d'RMC. Hein. On a Arthur Perrault qui est au bord de la pelouse, qui voit le match de façon différente et qui vous le raconte de façon différente. Ça aussi, c'est pas inintéressant.
Le mondial, comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs, c'est sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Merci encore, messieurs. Il est 8h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Fini la bamboche.
Oui, 5h du mat, j'ai plus du tout de frissons. Les bars de nuit à Dijon devront désormais fermer à 2h contre 5h. Et à Metz, le maire ne veut plus de discothèque en centre-ville. La colère de Thierry Fontaine de Lumi avec nous dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h21. Nous sommes en direct ce matin avec un homme en colère. Bonjour Thierry Fontaine.
Bonjour.
Président de la branche nuit à l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. En colère, pourquoi ? Parce que hier soir, samedi soir, c'était sans doute le dernier samedi soir tel qu'on les connaissait à Dijon. Place de la République, les bars de nuit vont devoir fermer à 2h contre 5h pour des raisons de sécurité. La mairie en plus ajoute à cet arrêté préfectoral un arrêté municipal pour fermer les kebabs dès 1h du matin. C'est une situation qui s'imposait, Thierry Fontaine ?
Alors non, je pense qu'elle s'imposait pas. Je pense que il y a un temps qui a été raté, c'est celui de la discussion, de la concertation. Aujourd'hui, on parle d'insécurité. On voit bien que l'insécurité, elle est un petit peu partout en France. C'est pas 5 bars de nuit qui font l'insécurité. Je pense que en effet, il y avait des solutions à trouver avant la solution radicale de les fermer. Hein. Moi, je pense que une ville qui commence à fermer ses bars de nuit, hein, en l'occurrence, c'est une ville qui devient insécuritaire parce que le bar de nuit c'est un phare, hein, dans la nuit, c'est un refuge pour les gens qui pourraient avoir maille à partir avec d'éventuels agresseurs. Quand on en arrive à fermer radicalement, je pense qu'on commet une erreur. Je l'ai vu dans d'autres villes, ça n'a pas réglé les problèmes de sécurité, hein, de faire ça. On est revenu en arrière par la suite. Il y a des choses à mettre en place.
D'autant que pour les bars de nuit, cette tranche de 2 à 5 heures du matin, c'est quoi ? 70-80% du chiffre d'affaires, ce sont des chiffres corrects que j'ai lus ici ou là ?
Alors, pour certains, oui. C'est pas une règle qui est la même pour tous. Hein. Certains attaquent un petit peu plus tôt, d'autres plus tard. Tout dépend de la typologie du bar et de ce qu'ils visent en termes de clientèle et d'animation. Mais en effet, pour certains, ça représente, oui, 80% du chiffre.
Je reviens à ce que vous disiez, une ville qui commence à fermer ses bars la nuit, c'est une ville finalement qui perd un peu son âme aussi. J'ai l'impression qu'on ne supporte plus rien. Évidemment, ça nous renvoie aussi à ce que disait le maire de Metz sur RMC, François Grosdidier, qui ne veut plus de discothèque en centre-ville.
On devient maire en 2020 et d'un coup on ne veut plus si. C'est comme si vous deveniez maire d'une ville et que d'un coup vous fermiez tous les coiffeurs parce que les cheveux bouchent les égouts et vous décidez de les envoyer ailleurs. C'est pas ça être maire. Être maire, c'est axé sur le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, je pense que à Metz, on l'a pas cherché. On a dit tiens, on va trouver une solution, mais cette solution, en fait, elle a été trouvée il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand sont nés les grands multiplex à l'extérieur des villes, des choses comme ça, et on en est revenu. On en est revenu parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes se retrouvent coincés à l'extérieur des villes ou des villages. Donc, on peut pas prendre ni un taxi, ni un VTC, ni tout ce que vous voulez pour rentrer. On peut pas rentrer en trottinette, on peut pas rentrer en vélo, à pied, ni en transport en commun. Donc, ça a été une fausse bonne idée.
Une question de sécurité, finalement, d'avoir ces clubs et ces discothèques en cœur de ville.
Mais bien sûr, pareil, quand vous avez un groupe de filles qui rentrent toutes seules, qu'est-ce qu'on préfère ? Qu'elles rentrent dans des rues complètement désertes et vides, à se retourner dès qu'il y a un bruit, un craquement, ou que leur parcours soit jalonné d'établissements, de façon en effet être assuré, à pouvoir appeler au secours, à pouvoir se réfugier dans l'établissement. On est en train de parler de remettre en place le Où Angela qui permet à une fille qui a maille à partir avec un éventuel agresseur à trouver refuge dans nos cafés, dans nos bars, dans nos restaurants. Et dans le même temps, on a le maire de Metz qui, lui, arbitrairement décide de dire je vais fermer toutes mes discothèques de centre-ville et je les envoie ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette notion de fonds de commerce ? Qu'est-ce qu'on fait des emplois ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ont mis leur vie, leurs économies dans des établissements et d'un coup, vous leur dites, c'est fini, tout ça, tous ces efforts, toute une vie de travail, je le prends, je l'enlève, je le mets ailleurs. Enfin, Moi, ça, oui, je suis en colère. Voilà.
Thierry Fontaine, on entend cette colère. Je voulais juste d'un mot vous poser une question sur ce que dit l'autre Thierry à Lumi. Thierry Marx, c'est le nouveau patron de Lumi, effectivement, qui lance un appel ce matin dans le journal du dimanche. Régulariser les salariés étrangers du secteur de l'hôtellerie. 200 000 postes non pourvus. Il faut régulariser les travailleurs sans papier, quoi, qui bossent dans les restos, dans les hôtels.
Alors oui, je veux dire, s'ils sont là, ils ont la volonté de travailler, oui, il faut les régulariser. Je veux dire, on ne demande pas à régulariser des gens qui ne font rien. On demande à régulariser des gens qui sont déjà au boulot, qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de travailler. Et dans le même temps, ça n'empêche pas qu'il faut remettre aussi les gens au travail. Vous savez, on fait un gros focus sur l'hôtellerie et la restauration, mais moi, il n'y a pas un métier. Moi, je vois des villes qui ont plus de chauffeurs pour conduire leur bus. Je vois des coiffeurs qui sont en tension, qui trouvent personne. On se focalise sur l'hôtellerie et la restauration en disant ils payent mal ici, ça non. Il y a une grande démission. C'est pas l'hôtellerie et la restauration qui paye mal, ce sont les gens aujourd'hui. Je pense qu'il faut remettre les gens au travail. Et dans le même temps, il faut en effet régulariser en urgence ces sans-papiers. On est en métier en tension, tout le monde le sait, et on n'est toujours pas inscrit sur la liste des métiers en tension. Donc oui, en effet, comme Thierry Marx, je demande, le président de l'UMI, je demande en effet à ce qu'on accélère ces procédures et qu'on arrête de perdre du temps. Dans un même temps, qu'on remette en effet nos compatriotes qui prennent du temps pour réfléchir, qu'on les remette au travail.
Discussion évidemment dans le cadre aussi du projet de loi immigration qui arrive, je le rappelle, à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Merci beaucoup Thierry Fontaine d'avoir été
Merci
avec
vous.
Président de la branche nuit à l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Il est bientôt 8h30 les amis. Retour à Doha dans 2 minutes dans le journal et toute votre météo.
RMC, la matinale week-end.
L'info et le sport avec Antoine Martin et Stéphane Genest. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Commençons par les trois titres.
C'est le jour J, France-Pologne, 8e de finale du mondial. Match clé, retour des titulaires pour faire sauter le verrou polonais.
Opération service après-vente pour Emmanuel Macron après les annonces de coupure d'électricité. Pas de panique, affirme le chef de l'État. Et puis, on a tous quelque chose en nous de Johnny Hallyday. 5 ans après sa disparition, on retient la nuit en écoutant toute la musique que l'on aime avec l'un de ses plus grands fans.
RMC. C'est Coupe du Monde 2022.
Mais tout de suite le Qatar, Doha, puisque c'est presque une nouvelle compétition qui débute avec ces rencontres couperet France-Pologne. C'est donc tout à l'heure à 16h.
Plus que quelques heures d'impatience en ce dimanche, on l'espère victorieux, évidemment. Avec quelle composition Didier Deschamps va-t-il s'avancer face au coéquipier de Lewandowski? Prenons la direction de Doha pour le savoir avec Loïc Braille, notre envoyé spécial pour RMC. Bonjour Loïc. Après la défaite face à la Tunisie, y aura-t-il une surprise dans le 11 bleu?
Bonjour, alors non, pas de surprise à attendre. Un retour aux fondamentaux pour Didier Deschamps qui va s'appuyer sur ce qui a fonctionné en début de compétition, notamment face au Danemark, puisqu'on devrait retrouver le même 11 que face aux Danois. La cheville gauche de Théo Hernandez qui souffrait d'une légère contusion ces derniers jours va bien. Varane va lui poursuivre sa montée en régime en défense centrale et les 4 joueurs à vocation offensive seront bien là pour trouver la clé de ce coffre-fort polonais, bloc très bas défensivement. On retrouvera donc le capitaine Hugo Lloris dans les buts, 142e sélection ce soir, record de Thuram égalé, une défense à 4 de droite à gauche, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, 3 milieux de terrain, Griezmann, Tchouaméni et Rabiot, et en attaque, Dembélé, Giroud et Kylian Mbappé.
Une très belle attaque pour les Bleus cet après-midi. Merci Loïc Braille en direct de Doha au Qatar. En face, il faudra se méfier de 2 joueurs majeurs, Robert Lewandowski, l'attaquant du Barça, le serial buteur, 77 buts en 137 sélections avec la Pologne. Et puis, celui qui s'illustre dans ce mondial, c'est le gardien Wojciech Szczęsny. 2 pénaltys arrêtés dans ce mondial. Les Bleus sont prévenus en cas d'égalité d'une éventuelle séance de tir au but, Valentin Jamin.
Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Wojciech Szczęsny sur le pénalty de Messi, 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite.
Quand vous tirez un pénalty face à Szczęsny, le but vous paraît tout petit.
L'ancien gardien des Bleus, Lionel Charbonnier.
Il le fait à l'instinct, il ne part pas trop tôt, donc il a une grande maîtrise de lui-même. Avec l'envergure qu'il a, il a juste une poussée, il peut toucher le poteau. C'est un mec impressionnant.
Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017. Szczęsny, spécialiste, a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière, près de 30%. Johan Giroud a joué avec lui à Arsenal. Arsenal il y a 8 ans et souligne son caractère.
C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression.
Au Qatar, aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le Polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé.
Myself.
Moi-même, répond-il en souriant.
Et même si les Bleus partent favoris, on a en souvenir des huitièmes de finale difficiles, tendues, crispées. Un exemple, 1998, le but en or de Laurent Blanc face à une équipe ultra défensive du Paraguay. Peut-être un scénario similaire cet après-midi face à des Polonais très défensifs, prévient Didier Deschamps.
Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien et elle aime ça, même elle adore ça. Mais c'est pas la limiter qu'à ça. Mes joueurs savent que dans la négation, il y a du répondant. Ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour créer des problèmes à l'adversaire.
Et rendez-vous dès 15h, intégrale Coupe du Monde. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten et toute la bande RMC Radio officielle du Mondial. Jeannot Rességuier, évidemment, pour vous faire vivre ce France-Pologne. Coup d'envoi 16h, l'autre huitième de finale du jour, de la soirée, plutôt Angleterre-Sénégal, coup d'envoi 20h. Le vainqueur sera l'adversaire des Bleus en quart si victoire il y a, mais on y croit. Hier, l'Argentine et les Pays-Bas ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Ce sera d'ailleurs la première affiche vendredi à 20h.
Merci beaucoup Antoine Martin, 8h34. Stéphane Genest, c'est Emmanuel Macron qui l'affirme. Pas de panique sur les possibles coupures d'électricité cet hiver.
Dans deux interviews accordées et à nos confrères de TF1 et à ceux du Parisien aujourd'hui en France, le président de la République est revenu sur le sujet. Il affirme même qu'il pourrait peut-être ne même pas y avoir de coupure, seulement si tout le monde fait un effort. Mais pour le moment, force est de constater que le compte n'y est pas vraiment, Victor Joannin.
Les bras chargés de sacs, Sidney déambule dans une rue commerçante. Il a trouvé des cadeaux de Noël, mais des efforts de sobriété, aucun.
Je viens de sortir là du centre commercial, c'est assez clair, c'est que les chauffages ils sont toujours à fond et que les portes elles sont grandes ouvertes. Vous voyez, je porte une veste, je porte une écharpe, j'ai pas besoin qu'il fasse 23-24 degrés à l'intérieur du magasin. Je préfère qu'il fasse 19-20 et je ferai mes cadeaux de toute manière.
Les enseignes lumineuses et les vitrines sont bien sûr allumées à grands coups de kilowatts et Kylian regrette que ça continue même après l'heure de fermeture.
Quand on marche à 23h et qu'on voit les vitrines allumées, c'est pas normal quoi.
Même goût amer pour Pauline dans le cabinet médical où elle travaille, elle a le sentiment que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu.
On est bien chauffé, moi j'ai même trop chaud donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait.
Le porte-parole de l'association nationale des DRH, Benoît Serre, explique que beaucoup d'entreprises ont des marges de manœuvre limitée.
Aujourd'hui, on a un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas forcément été construits dans une logique d'économie d'énergie et qu'on ne peut pas accuser les entreprises qui les occupent d'être responsables de cela.
Pour le moment, c'est surtout l'industrie qui fait des économies d'électricité avec une baisse de 15%, des efforts contraints par l'explosion du prix de l'énergie.
Autre sujet évoqué par Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Et il compte bien mener à bien ce projet afin de reculer l'âge de départ à 65 ans notamment. Encore un effort qui ne passe pas pour Emmanuel Bompard, député de la France Insoumise. Il était l'invité de la matinale week-end RMC.
Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié au mois de septembre démontre qu'il n'y a aucune nécessité économique à une réforme des retraites aujourd'hui. 80% des Françaises et des Français y sont opposés. L'ensemble des organisations syndicales de salariés ont dit leur opposition à un report de l'âge de départ à la retraite. Et donc je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement à vouloir reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Un quart des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans aujourd'hui dans notre pays. Et vous allez demander à ces gens de travailler jusqu'à 65 ans. Je trouve ça absurde, brutal et totalement inhumain.
Emmanuel Bompard, député de la France Insoumise, invité de la matinale week-end RMC. En bref, punir les trafiquants de tabac comme ceux de stupéfiants, c'est la volonté de l'exécutif. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, va dévoiler demain un plan anti-trafic de tabac. Objectif des autorités, viser à adapter la riposte douanière en proportion à ce commerce illicite, puisque depuis le début de l'année 2022, ce sont tout de même plus de 600 tonnes de contrebande de tabac qui ont été saisies.
Et c'est demain matin, 8h30 sur RMC et BFM TV, que Gabriel Attal détaillera ce plan face à Apolline de Malherbe. En attendant, Stéphane, ce triste anniversaire. 5 ans, ça fait 5 ans que Johnny Hallyday nous a quittés.
L'idole des jeunes, le patron, French Elvis, le taulier et j'en passe, notre Johnny national continue d'animer nos soirées, nos nuits et notre quotidien parfois. Et quand je dis quotidien, je pèse mes mots puisque Kevin Gass a rencontré un fan pas comme les autres. Puisque pour lui, penser à Johnny, c'est vivre pour le meilleur reportage.
Bienvenue chez Alain Lecoq.
Mon surnom, pour info, c'est Cococ.
Jaquette en cuir, pantoufles floquées, Hallyday au pied. Cet ancien restaurateur de 63 ans est à la retraite depuis mercredi. Sa passion pour Johnny, elle, continue.
C'est un saltimbanque, c'était un monsieur, c'était le patron, c'était le boss.
La rockstar est partout sur les murs et les meubles du bureau du domicile familial. Johnny s'y produit même encore en modèle réduit sur la scène de l'Olympia ou aux côtés des vieilles canailles.
C'est un ami à moi qui me l'a fait et vous n'en trouverez jamais sur le marché. C'est une maquette de l'Olympia où Johnny a joué dans les premières années de sa vie.
C'est aussi dans les premières années de sa vie qu'Alain Lecoq, élevé par une famille d'accueil, découvre le rock'n'roll. Souvenir, souvenir. Et d'autres morceaux plus mélancoliques.
Alors un titre mythique qui me colle à la peau, c'est Noël interdit. Noël. Il chante le Noël qu'on aurait toujours voulu avoir.
L'anniversaire des 5 ans de la disparition de son idole, Alain le redoute.
Mais pour moi, Johnny Hallyday existe toujours et existera toujours dans mon cœur.
Alain se rendra à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans vendredi, où une messe est organisée en hommage à Johnny.
Johnny Hallyday, 5 ans déjà. Merci beaucoup Kevin Gasser. Tiens, j'en profite pour passer un petit message ce matin, un petit message de service. Joyeux anniversaire Maxime.
Ah oui.
Maxime qui est notre CM.
Oui, alors.
Est-ce que ça veut dire?
Oui, mais alors moi au début je ne comprenais pas parce qu'il m'a dit non, moi je suis CM.
Ou CM2.
Ouais, il est community manager.
Exactement.
J'ai retenu.
C'est grâce à lui que tout ce qui se passe à la radio se retrouve sur internet, sur les réseaux sociaux. Maxime qui fête donc ses 17 ans.
Exactement.
Aujourd'hui, comme tous les
18, il travaille.
Il a 17 ans éternellement. On l'embrasse bien fort, notre Maxime. Faisons plaisir.
À quelqu'un.
Continuons.
Eh oui.
Allez, notre gagnant.
On va
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Donc, j'étais tellement pressée d'offrir le cadeau, je me suis dit, on va envoyer un Power Blender 5 Connect de Magimix, mais où?
Ah, et bien surtout à qui?
Et à qui?
À Ali. Bonjour Ali.
Bonjour Ali.
Bonjour à tous.
Vous
Comment
êtes où?
Allez-vous?
Ben ça va.
Ah, je suis à Mantes-la-Jolie.
Pas très loin de chez nous.
Bah non, pas très loin. Et joyeux anniversaire à Maxime.
Ah, c'est sympa, ça va lui faire plaisir.
Ah
ça.
Ouais, comme vous me faites plaisir, je vais vous faire plaisir.
Ah, c'est hyper sympa.
Vous aimez cuisiner, Ali?
Joyeux anniversaire.
Vous aimez cuisiner?
Ah bah ça va être un petit peu. En plus, avec le blender, là, on va pouvoir faire des petits jus. Ça va être sympa.
Des smoothies, des cocktails aussi.
Ouais.
Et il y a 85 recettes qui sont pré-programmées en plus, donc tout est facile. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, Ali, c'est bon.
C'est sympa. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est la première fois que je joue et je gagne.
Quoi.
Alors donc là, j'ai été vachement surpris de votre appel et tout.
Voilà. Vous avez bien fait. Merci d'être avec nous, Ali, le samedi, le dimanche et toute la semaine sur RMC.
On vous embrasse.
Prenez soin de vous. À bientôt.
À bientôt. Salut, Ali.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Magimix. Réussissez des recettes équilibrées avec suivi nutritionnel personnalisé grâce au Blender Power 5 Connect de Magimix.
Vous voyez Ali qui joue pour la première fois et qui gagne. Vous voulez faire pareil? Eh bien inscrivez-vous dès maintenant. Parce que les amis, on n'a pas trop le droit de...
on n'a pas trop le droit de vous le dire,
voilà,
en fait c'est ce que vous vouliez
exactement.
Dire.
Exactement.
Mais on
vous le
dit quand même.
À partir du week-end prochain, de la semaine prochaine, il y a un truc qui revient là.
Ouais, parce qu'on vous
le
aime.
Coffre.
Et c'est pour ça qu'on vous le dit.
Vous vous souvenez du coffre?
Oui, le coffre de Noël.
Oui, il y avait la totale coupe du monde, il y avait beaucoup d'argent.
Et je crois que vous savez ce qu'il y a dans le coffre de Noël.
Et bien là, pour le spécial Noël, le coffre Noël, il y aura une PS5, un iPhone 14.
Ah ouais.
Et la tirelire du Père Noël, qui, croyez-moi, est assez généreuse.
Oh
la tirelire
là
du Père Noël.
Et alors,
vous pouvez vous inscrire
dès maintenant. Voilà. Et pour ça, il faut envoyer par SMS le mot coffre au 732-16 par SMS. 732-16, bonne chance.
75 centimes d'euros par SMS, évidemment, et 3 SMS maximum. Bonne chance à vous, il est 8h41.
RMC, la matinale week-end.
Dans un instant, le cri d'alarme, un cri d'alarme sur RMC, le cri d'alarme du spectacle vivant, les théâtres, les cabarets, des dizaines de petites salles prises à la gorge à cause de l'explosion des factures d'énergie. Certaines craignent de baisser le rideau. Le syndicat des entreprises artistiques et culturelles en appelle au gouvernement. Son président est avec nous sur RMC dans 2 minutes. Nicolas Dubourg, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Tous engagés.
8h43 sur RMC. Un cri d'alarme ce matin, le cri d'alarme des théâtres, des opéras, des cabarets, des autres salles de spectacle vivant face à l'explosion du coût de l'énergie. Bonjour Nicolas Dubourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Théâtre de la Vignette à Montpellier, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles. C'est quoi? C'est 470 adhérents, c'est ça? Moitié théâtre public, moitié compagnie artistique?
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. 450 théâtres et compagnies qui sont répartis sur tout le territoire national.
RMC.fr, sur RMC.fr, nous publions ce matin le courrier que vous avez envoyé au ministère de l'Économie, de la Culture, de la Transition écologique. Ce sont deux lettres, oui, en forme de cri d'alerte qui, pour le moment, restent sans réponse.
Oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très alarmante au moment où on parle. On a subi pendant 2 ans la crise Covid avec une fermeture quasi intégrale de nos établissements pendant 2 ans. On se rappelle tous, hein, la fermeture des théâtres qui a été très très douloureuse pour notre secteur. Et là, au moment où on se relance, au moment où les spectateurs commencent à revenir dans nos salles et des fois de manière très massive, eh ben on a ce mur à pleine vitesse de l'inflation qui nous arrive, avec un risque très très fort d'annulation de spectacles et puis de destruction tout simplement d'emplois à échéance de moins d'1 an. Hein. Donc on est vraiment dans une situation qui est catastrophique. Et on a la sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. On n'a pas de réponse.
Chiffres à l'appui hein, dans vos courriers entre 2019 et 2023, l'augmentation moyenne du coût de l'électricité, 200% en moyenne, pour certaines salles c'est jusqu'à 900%, pour certaines salles pour le gaz jusqu'à 700%, 150% en moyenne. Alors Nicolas Dubourg, pour bien comprendre, je me tourne vers Martin Cadoret. Bonjour Martin.
Bonjour Mathieu.
Vous avez contacté des dizaines de salles en France, on va regarder un peu la situation à l'heure où on se parle. Il paraît que les répétitions se font en doudoune et que certaines dates de spectacles et de concerts sont déjà annulées, Martin.
Oui, chaque salle de spectacle cherche comment absorber ses charges qui explosent. Au théâtre du Chêne Noir à Avignon, par exemple, la facture a été multipliée par 4, de 28 000 euros à 112 000 euros. Là-bas, on accueille des pièces qui tournent et la compagnie maison en crée aussi sur place. Il va falloir s'adapter, explique le directeur Julien Gélas.
Je suis obligé de faire un plan d'urgence d'économie d'énergie à tous les niveaux, mais ça suppose par exemple, là on a une création que je vais faire sur 2 mois, on va en risque de répéter sans chauffage. Et j'ai prévenu tout le monde qu'il allait falloir qu'on mette des manteaux. Mais aussi, une vraie question se pose sur l'annulation de certains spectacles. Ce sont des coûts importants, particulièrement en hiver. Il pourrait y avoir 60% des spectacles qui vont être annulés. C'est plusieurs centaines de personnes qui devaient venir travailler au théâtre du Chêne Noir, qui vont pas pouvoir venir travailler pour que nous puissions survivre, c'est ça.
Autre exemple, à la Filature à Mulhouse qui accueille une scène nationale de théâtre mais aussi l'Opéra National du Rhin et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Donc beaucoup de monde qui compte sur ce lieu alors que la facture a été multipliée par 2. Benoît André, le directeur de la Filature.
On va essayer de fermer la Filature le plus souvent possible cet hiver. Dès qu'il n'y a pas d'activité, on va la fermer de manière à ne pas chauffer le bâtiment pour rien. Probablement à l'automne prochain, on va être obligé de fermer tout le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024. On va essayer surtout de ne pas toucher à la programmation déjà annoncée. On est en reconquête de public après la crise Covid. Donc, il eût été vraiment dommageable d'annuler à nouveau des spectacles comme on l'a fait pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire.
Martin, certains se disent, mais pourquoi ne pas augmenter le prix des places? Ça pourrait être une solution envisageable?
Pas vraiment Mathieu, on m'a beaucoup répondu qu'avec l'inflation ce n'était pas le moment d'en rajouter. Par contre, quelques salles ont fait le choix d'augmenter un petit peu les prix au bar, comme le Paloma à Nîmes, une salle de concert. Là-bas, ça sera plus 1 euro sur l'alcool et plus 50 centimes sur les boissons sans alcool.
Mais l'État a mis en place des aides pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que les théâtres, les salles de concert peuvent aussi en bénéficier?
Alors théoriquement, oui, il faut que la facture représente 3% du chiffre d'affaires 2021 des salles. Mais le spectacle vivant, c'est une économie spécifique, explique Boris Collin de la Fédération des lieux de musique actuelle.
Dans notre secteur à nous, ce pourcentage reste modeste. Et donc, pour l'instant, en tout cas, nous exclut un peu du dispositif qui existe. Je pense qu'il faut que l'État adapte son dispositif de soutien et qu'il comprenne que même si en pourcentage, c'est pas important, il n'empêche qu'une charge qui n'était pas prévue, encore une fois, de dizaines de milliers d'euros, il faut pouvoir l'assumer. Comme en plus, le contexte de reprise d'activité, il est quand même pas génial. Hein. Depuis qu'on peut reprendre les concerts, le public est quand même pas exactement au rendez-vous comme on le souhaiterait.
Pas de dispositif général pour l'instant, mais quelques collectivités consentent tout de même à aider au cas par cas. C'est le cas avec la Filature dont je parlais un peu plus tôt. La ville de Mulhouse a consenti à prendre en charge une partie de la facture énergétique. Hors micro, une directrice de théâtre me faisait remarquer qu'il était compliqué de demander de nouvelles aides alors que le secteur a été très aidé pendant la crise Covid. Covid. Plusieurs syndicats professionnels du spectacle vivant ont en tout cas adressé une lettre ouverte à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, début novembre, pour lui demander de bloquer les prix de l'énergie comme en Allemagne. Pour l'instant, pas de dispositif supplémentaire du côté de Bercy, mais le cabinet du ministre m'a indiqué qu'une réponse à ce courrier était en cours de rédaction.
Ah, une réponse en cours de rédaction. Nicolas Dubourg, merci beaucoup Martin Cadoret. Nicolas Dubourg, j'imagine que vous l'attendez la réponse. Vous pensez que le gouvernement répondra favorablement à votre demande, faire comme en Allemagne, un dispositif dédié ?
Bah écoutez, moi j'apprends à l'instant qu'une réponse serait en cours de rédaction. Il faut savoir que ce courrier il a été envoyé il y a un mois, que les annonces qui ont été faites s'agissant des dispositifs pour les PME et TPE remontent à encore avant et qu'on les a alertés il y a un mois en leur disant « Vous avez inventé une véritable usine à gaz, ce qui est un scandale dans la période actuelle, et vous vous apprêtez à nous exclure purement et simplement avec tous les critères que vous avez mis en place. » C'est-à-dire qu'ils invente un système qui est censé venir en aide aux entreprises et chacun des critères semble fait pour exclure les entreprises artistiques
y compris le guichet simplifié qui a été annoncé il y a 15 jours.
Oui, parce que en fait, c'est pas parce que le guichet est simplifié que les critères le sont. Et quand vous avez des critères qui vous disent on aidera les entreprises en dessous de 36 kilowatts. Il faut savoir qu'un théâtre a une consommation très forte qui souvent est au-delà de 200 voire peut atteindre 1000 kilowatts dans une soirée, vous voyez avec les projecteurs etc. C'est des consommations qui sont très fortes. Alors on travaille à des économies d'énergie, ce sont des investissements qui sont conséquents, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc là, nous on a relancé une activité et dans le même temps, on invente des dispositifs d'aide qui nous excluent et qui donc vont nous empêcher de faire ces investissements. C'est une quadrature du cercle.
Finalement, Nicolas Dubourg, ça vous renvoie à cet éternel statut de non-essentiel.
Là, je crois que c'est criant. Le sujet n'était pas parler des Jeux Olympiques aujourd'hui, mais on voit systématiquement, à chaque fois que le gouvernement a à faire face à une urgence, qu'il ne traite pas ce qui est pourtant une exception française et qui devrait être mis en avant, savoir le secteur culturel. On a demandé à être reçu, on demande des comités interministériels pour réunir la ministre de la Culture, le ministre de l'Économie pour parler de nos problématiques. Et c'est systématiquement a posteriori, quand on fait des tribunes, quand on fait des lettres, qu'ils se disent « Ah oui, on les a peut-être encore oubliés ».
Peut-être que votre intervention sur RMC ce matin et la publication de cette lettre sur rmc.fr fera bouger les choses. Je l'espère en tout cas parce que c'est vrai que on ne parle pas des gros complexes ou des énormes salles de théâtre parisiennes, là. Non, on parle des petites salles dans des communes pour lesquelles, parfois, c'est le seul accès à la culture.
Oui, complètement. On parle de théâtres qui vont avoir entre 10 et 40 salariés maximum. Les plus gros peuvent atteindre 50, mais ça reste quand même la minorité. Donc on parle quand même de petites entreprises qui ont une mission de service public, qui travaillent notamment beaucoup avec les écoles, les collèges, les lycées, qui travaillent dans le domaine de l'éducation. On voit qu'il y a cette mission de 100% EAC qui est lancée par le président. Donc nous, on est complètement dans les territoires à travailler avec les populations au plus près sur les questions sociales, etc. Et donc ces missions-là, comment les assumer quand vous avez un disponible ? Le disponible, c'est ce qui nous reste quand on a payé nos charges. Oui. Ce disponible pour payer de l'activité, dans certains cas, avec cette augmentation de l'inflation, va diminuer de 50 à 70%. Donc, vous gardez un théâtre et puis vous ne faites rien à l'intérieur.
Donc, ça veut dire effectivement pas de date, pas de spectacle, pas de concert, pas
annulation
de création.
Exactement.
À l'arrivée, ça veut dire fermeture. Si rien n'est fait, fermeture de combien de salles et dans combien de temps ? Nicolas Dubourg, ça peut aller très vite là.
Je pense que la première étape, ça va être de l'annulation massive de spectacles.
Ouais.
Donc, on va arriver, comme je vous le disais, on a déjà des remontées de théâtre qui nous disent « je vais annuler 5, 10, 15 dates dès la saison prochaine ». Pas des dates, des spectacles, après multipliés par le nombre de représentations. Mmh. Donc ça, c'est déjà énorme. Et derrière ça, vous avez des compagnies qui tournent. Et si vous enlevez ces compagnies qui tournent, c'est des destructions d'emplois. Et vous allez avoir derrière des élus locaux qui vont dire « à quoi bon maintenir un théâtre ouvert s'il est ouvert 2 mois par an ?» Donc on voit vraiment que tout est en train de se resserrer pour renforcer ce sentiment d'inutilité dans la population. Or, nous disons et nous affirmons fort que nous avons besoin de renouer les liens. La population est en déshérence, on voit qu'il y a du repli identitaire, etc. Oui. On a besoin de se retrouver et on est en train de construire le contraire, encore une fois,
tout sauf non essentiel. Merci Nicolas Dubourg, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles, directeur du théâtre de la Vignette à Montpellier. Votre cri d'alarme ce matin sur RMC et votre lettre ouverte publiée sur rmc.fr. 8h53. Ah, il est là tous les jours et y compris le dimanche. C'est Arnaud Demange pour le meilleur de la semaine, qui a été très inspiré par les grèves et surtout les rébellions contre la politique zéro Covid en Chine cette semaine.
Pour que même des ouvriers chinois se plaignent d'un truc, Apolline, c'est vraiment que ça doit être abusé quand même. Les gars, ils bossent 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pour 20 euros. Ils vivent dans des barres d'immeubles qui feraient passer la Courneuve pour Saint-Tropez. Et ben même pour eux, c'est trop. Vous vous rendez compte, c'est comme si Depardieu disait « Non, non, arrête, là j'ai trop bu, désolé, je peux pas. » Ou c'est Jean-Luc Lahaye qui dit « Désolé, chouchou, t'es trop jeune. » C'est vraiment que ça va trop loin. Alors, j'ai vu une vidéo où des habitants de Shanghai scandent « Xi Jinping, démission !»« Xi Jinping, démission !» Exactement comme en France, quand on scandait « Macron, démission !» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Chine, c'est vraiment le pays de la contrefaçon. Ils copient sur nous tout le temps. Ça devient drastique jusqu'à l'absurde. Je sais pas si vous avez vu cette info, mais il y a une dizaine de personnes qui ont péri dans un incendie parce que les pompiers n'ont pas pu accéder jusqu'à eux à cause des restrictions sanitaires. C'est-à-dire qu'en Chine, pour vous protéger d'une mauvaise grippe, on vous laisse brûler maintenant. En Chine, ils préfèrent que tu meurs en bonne santé. On comprend même plus pourquoi les mesures anti-Covid du régime chinois sont sévères à ce point. Nous, ça fait un bail qu'on a torché l'affaire quand même. On dirait qu'ils savent pas déconfiner. Alors, on peut leur prêter un spécialiste, on en a un. Je propose qu'on leur envoie Jean Castex. Ah, bonjour à tous, bonjour. Comment c'est la Chine, c'est pleine de Chinois. Je les imagine confinés comme des petits pois. Bon, un peu de bonne humeur. Alors, où sont mes lunettes ? Chinoise, Chinois. Monsieur Jinping m'a demandé de l'aide pour votre déconfinement. Alors, en phase 1, dans les régions de Shanghai, Pékin et Chongqing, les écoles seront fermées. Mais les usines resteront ouvertes. Et oui, il faut bien occuper les enfants. Et Noël approche, l'Occident aura besoin de jouets. Au restaurant, si vous mangez assis, vos baguettes pourront servir de bâtonnets d'autotest nasopharyngé, à condition que le test soit espacé du repas d'au moins 4 heures. Et si vous sentez l'odeur du repas sur votre baguette, c'est que vous n'avez pas perdu l'odorat et donc que vous êtes négatif. Et oui, d'autres règles vont suivre. Alors l'idée, c'est que les gens aient l'impression d'avoir un peu de liberté, mais que la règle soit suffisamment compliquée pour que personne ne puisse sortir au final. Et oui, c'est chinois, hein, ça reste à la chinoise. Malinx, le lynx, futex, le castex. Ce serait parfait. Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demange. 7h20, 8h20 dans Apolline Matin, du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, 9h midi, les GG du sport. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va ?
Salut, c'est Patrick.
Ouais, ça va ?
On va l'appeler Chantal là-dessous ce matin.
Chantal là-dessous.
Salut les gars, ça va ?
Ouais, j'aime bien. Ouais.
Alors, c'est bien marré ce matin.
Oui, ouais, je vois ça, ouais. Très belle voix en tout cas.
Oui, oui,
très belle
voix. Vous savez, je travaille pour vous. Hein. C'est tout un truc d'imitation et tout. Enfin, je vais bientôt me produire.
Hein. On va quand même aller prendre du miel, là, hein, tranquillement. Voilà, on va aller se reposer. Dans quelques instants, les grandes gueules du sport consacrées évidemment à cette Coupe du Monde et à ce match France-Pologne, 8e de finale de notre équipe de France, de nos Bleus, avec les grandes gueules ce matin. Il y aura Stephen Brun, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Jean-Louis Tour en direct de Doha et évidemment Christophe Cessieux. Bref, 3 heures où nous allons nous régaler. Beaucoup d'informations à vous donner. Le premier quart de finale, vous le savez, entre l'Argentine et les Pays-Bas. Et puis on vous donnera aussi des informations et des nouvelles concernant le roi Pelé. Voilà, un bon programme.
Merci Jean-Christophe. À tout de suite après 9h.